La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Depuis d'assez longues années déjà, un télo est devenu une insulte dans les cours de récré. Depuis d'assez longues années aussi, certains segments de la population sont désignés de manière péjorative par le terme « bobo ». Manière d'indiquer que ceux ainsi visés, détenteurs d'un capital culturel assez conséquent, sans être totalement dépourvus, loin s'en faut pour certains, de capital économique, font toujours primer le premier sur le second, ce qui ne laisse d'étonner ceux qui raisonnent mal en termes d'homo economicus. L'intello des cours de récré comme le bobo, lancé pour dénigrer, n'aurait probablement pas pu être rendu possible sans que s'installe très profondément et à mesure même que l'éducation progressait en se massifiant ce qu'il faut bien appeler de l'anti-intellectualisme. Mais pour comprendre cet anti-intellectualisme généralisé dans lequel nous vivons désormais, sans doute convient-il de saisir ses origines intellectuelles. Car aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est bien au cœur de l'univers intellectuel que s'est forgé au cours des 19e et des 20e siècles l'anti-intellectualisme. Mais c'est cette enquête historique qu'a menée Sarah Almatari. Elle est aujourd'hui l'invitée en direct du Salon du Livre de la suite dans les idées. Et nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission Lionel Ruffel, qui est professeur de littérature à l'université Paris 8 et qui fait paraître Trompe la mort aux éditions Verdier, un livre qui à sa manière témoigne de ce climat anti-intellectuel qui met l'université dans une situation parfois terrible et en même temps lui offre l'occasion peut-être de se réinventer. C'est du moins ainsi qu'on peut lire ce bref livre dont nous parlerons dans la seconde partie de l'émission. Bonjour Sarah Almatari.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Lyon 2 en littérature et on vous doit ce livre donc, qui paraît La haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France aux éditions du Seuil. Un livre qui est au fond une première parce que c'est étrange, la France se targue depuis longtemps d'être le pays des intellectuels, le grand pays intellectuel. On pourrait discuter longtemps de savoir s'il est tellement plus intellectuel que beaucoup des pays qui lui ressemblent ou qui lui sont proches géographiquement ou intellectuellement. Toujours est-il que la France se singularise par le fait de penser peut-être qu'il est immunisé contre l'anti-intellectualisme. De la même façon, d'ailleurs, il y a peut-être des liens que la France aurait été immunisée, c'est la thèse de Zeb Sternel, contre le fascisme. Il y aurait ces mécanismes qui auraient protégé la France. Tout ça est une légende, les historiens nous l'ont bien démontré depuis, et votre livre est précieux parce que c'est la première contribution à cette histoire de l'anti-intellectualisme qui est un trait français, comme il est un trait d'autres pays qui ressemblent au nôtre, Sarah Almatari.
Bonjour à tous. Oui, effectivement, il n'y avait jusqu'à présent aucun livre sur l'anti-intellectualisme en France, alors que le sujet avait donné plusieurs essais aux États-Unis, dont un avait d'ailleurs remporté le prix Pulitzer, des ouvrages en Espagne, en Allemagne, des articles au Québec. Voilà, donc c'est un sujet qui est un véritable objet d'étude en dehors de notre pays, et j'ai commencé par me demander pourquoi ça n'en était pas un dans notre pays.
Alors pourquoi ?
Bien évidemment, la mythification de la France des Lumières, de la France Dreyfusard, de la France civilisatrice, rationnelle, y est pour beaucoup. Une sorte de grand récit national a été bâti sur cette idée-là, et c'est toujours difficile à déconstruire un récit national, et c'est ce que j'ai essayé de faire assez modestement, non pas pour reconstruire un autre type de récit qui consisterait à dire que la France n'est pas la patrie des intellectuels mais la patrie des anti-intellectuels ou des anti-intellectualistes,
ce qui serait absurde,
ça reviendrait à finalement créer un nouveau stéréotype. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est plutôt envisager les choses en tension. Et le titre du livre est assez éloquent, me semble-t-il. La haine des clercs, c'est à la fois la haine qui est manifestée à l'égard des clercs, mais c'est aussi la haine des clercs eux-mêmes envers leurs semblables. Dans ce bouquin, la plupart en fait des figures que j'analyse sont eux-mêmes des intellectuels. qui détestent les intellectuels et qui parfois se détestent eux-mêmes.
Alors ça, c'est tout le paradoxe, hein, cette tension dont vous parlez, que vous mettez en évidence dans des situations historiques, dans des contextes différents, dans des moments où ce qu'on appelle l'univers ou le champ intellectuel prend des formes différentes aussi. Donc c'est assez compliqué au fond de résumer votre livre parce que vous analysez très finement chacune de ces situations qui comportent des singularités très grandes, mais s'il y a une chose en commun, du moins peut-être jusqu'à une période récente et on y viendra, c'est bien que ces attaques anti-intellectualistes viennent d'intellectuels eux-mêmes. Ça c'est fondamental et récurrent.
Oui, alors c'est effectivement difficile de résumer le livre, puisque c'est un livre qui essaie de montrer finalement qu'on a tous, autant que nous sommes, à la fois de l'intellectuel et de l'anti-intellectuel ou de l'anti-intellectualiste en nous. Et je travaille justement en fait sur les circulations et la réversibilité de ce discours intellectualiste en montrant qu'une personne considérée comme intellectuelle peut être, par d'autres observateurs, considérée comme anti-intellectualiste et qu'elle-même peut formuler des griefs contre les intellectuels à un certain moment de son existence et le contraire beaucoup plus tard. Donc c'est vraiment un livre qui est fondé sur un principe de circulation. Je dis souvent en fait qu'il se lit, je l'espère en tout cas, comme un roman avec retour des personnages. Ce que j'ai voulu faire, c'est tout le contraire en fait d'une typographie, d'un classement. Je me suis refusée en fait à chapitrer, comment dire, en partant de l'affaire Dreyfus ou de l'intellectuel spécifique ou de l'intellectuel révolutionnaire. Ce que je voulais montrer plutôt, c'était à la fois comment des traditions anti-intellectualistes se tissaient. Il y en a, par exemple, la figure de Proudhon, et la tradition proudhonienne est très importante, puisque Proudhon, qu'on considère souvent comme le père de l'anarchisme, va être une figure tutélaire à la fois pour la gauche et l'extrême gauche et pour la droite et l'extrême droite, mais qui a aussi des prises de position conjoncturelles. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie d'analyser les polémiques de manière très précise.
En fait, des anti-intellectuels, on en trouve sur tout le spectre politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre. Donc on n'a pas là un critère déterminant pour identifier les anti-intellectualistes. On s'aperçoit aussi qu'à la faveur de l'évolution de séquences historiques particulières, ceux qui sont au départ anti-intellectualistes se retrouvent en fait dans la position inverse à l'issue de cette séquence. Peut-être vous pourriez d'ailleurs vous servir de l'exemple de l'affaire Dreyfus pour illustrer ce point, où la figure de Zola est particulièrement saisissante, Sarah Al-Matari.
Oui, alors j'ai essayé de construire ce livre dans un dépassement des catégories de gauche et de droite. D'abord pour montrer que les acteurs évoluent, mais aussi pour montrer que ce que nous, on nomme la droite et la gauche, évolue aussi avec le temps. Vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'à l'origine de ce livre, il y a une intervention très ponctuelle, une intervention militante, il y a 10 ans de cela, contre Nicolas Sarkozy, dans le cadre en fait d'une nuit blanche de l'Université Lyon 2 qui avait été organisée au moment de la lutte contre la LRU. Et à cette époque, j'étais plus jeune, j'étais sans doute un petit peu plus naïve, et je croyais tout simplement que l'anti-intellectualisme, c'était un réflexe de droite, voire d'extrême droite. Et donc j'étais partie comme ça, tête baissée, très très militante. Et puis en faisant un peu la généalogie du discours intellectualiste, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça, et que l'anti-intellectualisme, ça avait été aussi, au sein du mouvement ouvrier, une manière de lutter contre la division du travail entre les intellectuels et les manuels, et une manière en fait de s'émanciper en se construisant ses propres modèles intellectuels contre les hiérarchies établies. Alors on peut parler effectivement un petit peu de l'affaire
Dreyfus. Oui, parce que là, votre point de départ est intéressant, il est politique. C'est le moment aussi où on a un président de la République qui s'en prend à tous ceux qui mettent quelque chose comme la princesse de Clèves au programme des concours ou des examens. Au Salon du Livre même, ça avait suscité beaucoup de réactions de la part des auteurs et des éditeurs. C'était perçu comme vraiment une manifestation évidente d'anti-intellectualisme, c'est-à-dire non pas simplement d'ignorance de la culture ou d'inculture, mais vraiment cette façon de se vanter de ne pas être cultivé au fond, ou de tenir certains aspects ou certains pans de la culture pour des choses qu'il fallait rejeter. Et ça mis en lien avec la politique dont vous parliez, la politique publique qui concerne l'université. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler avec Lionel Ruffel tout à l'heure.
Absolument. Oui, alors avec Sarkozy, on a pour la première fois, me semble-t-il, le cas d'un anti-intellectualisme qui est exprimé du sommet de l'État. Avant, et notamment pendant la guerre d'Algérie, on avait eu quelques manifestations d'anti-intellectualisme portées par des ministres, de gauche comme de droite, d'ailleurs. Et puis, un moment que vous connaissez bien, c'est vers bon moment autour de 2004, on avait eu aussi du côté de Jean-Pierre Raffarin, qui était alors Premier ministre, ce type de manifestation-là. Mais avec Sarkozy... Je dirais qu'on passe une vitesse, parce que le président, en fait, exprime publiquement son anti-intellectualisme à la première personne, et il le fait sur les plateaux, il le fait en direct, en se mettant en scène et en se glorifiant finalement de ne pas être un intellectuel. Et dans le livre, j'explique que ça a certains échos avec la pensée nationaliste, notamment avec la pensée de Maurice Barrès. On retrouve des phrases, on retrouve des expressions qui sont directement empruntées à Maurice Barrès. Et là, il y a peut-être la trace d'Henri Guénaud, qui était un de ceux qui rédigeait les discours de Sarkozy et qui est un grand lecteur des anti-intellectualistes, Barrès, mais aussi Charles Péguy.
Alors, il y a des filiations, il y a des échos. Barrès, ça nous renvoie précisément à l'affaire Dreyfus dont je voulais que vous parliez, pour nous expliquer en quoi, finalement, au moment où se noue l'affaire, les positions des uns et des autres sont différentes du moment où l'affaire va se dénouer quelques années plus tard, Saint-Matéry.
L'affaire Dreyfus est évidemment un moment central dans l'histoire de l'anti-intellectualisme en France, mais je n'ai pas voulu commencer mon histoire de l'anti-intellectualisme à ce moment-là, et volontairement. Je suis remontée finalement assez loin. Le livre, on va dire, commence en 1830-1848, notamment avec la figure d'Agricole Perdiguier, un des premiers députés ouvriers en France. Et puis je m'autorise aussi quelques incursions bien en amont à l'époque de la Révolution française, notamment. Mais évidemment, l'affaire Dreyfus...
C'est aussi la naissance de l'intellectuel au sens...
C'est la naissance de l'intellectuel, et pour moi, l'intellectuel, alors si l'étiquette s'impose au moment de l'affaire Dreyfus et se diffuse et se médiatise, parce qu'en réalité cette étiquette, elle existe avant, elle est simplement pas passée en fait dans l'usage courant, oui. Évidemment la réalité de l'intellectuel
précède.
Et moi, mon point de départ, en fait, c'est la révolution industrielle. C'est de montrer comment le partage entre ceux qui travaillent de leurs mains et ceux qui sont censés travailler de tête, comme on disait à l'époque, va fonder des hiérarchies qui existent encore aujourd'hui. Alors, pour dire un mot de l'affaire Dreyfus, il m'a semblé intéressant dans le livre de m'intéresser à la figure de Zola pour montrer que celui qu'on tient généralement pour le grand représentant des intellectuels a commencé par être anti-intellectualiste. Et cette posture anti-intellectualiste chez Zola a des explications autobiographiques, puisque Zola a été un élève certes méritant, d'abord un assez bon latiniste lorsqu'il est en province, et puis ensuite quand il monte à Paris, il est orphelin de père, il a des difficultés, sa famille a des difficultés financières, il se retrouve un petit peu marginalisé, il va rater le baccalauréat. Alors évidemment,
Vous citez une lettre de lui à ses amis, Cézanne notamment.
Cézanne et Jean-Baptiste Imbert, oui. Qui eux réussissent le diplôme, qui ont le bac. Et Zola, lui, échoue. Alors évidemment, il faut replacer les choses dans leur contexte. Le baccalauréat n'est pas un diplôme démocratique. À l'époque, il y a très peu de gens qui l'ont. Il n'empêche que cet échec, cette frustration, va en partie conditionner une forme d'anti-intellectualisme chez Zola, un anti-intellectualisme qui va se manifester de façon esthétique dans le grand cycle des Rougon-Macquart. Dans le grand cycle des Rougon-Macquart, c'est la figure de l'entrepreneur, c'est-à-dire de l'homme d'action, qui l'emporte sur la figure de l'intellectuel, et je donne un certain nombre d'exemples d'intellectuels.
Au Bonheur des Dames en particulier.
En particulier au Bonheur des Dames, où on voit un entrepreneur qui agrandit sa boutique, comme Zola lui-même agrandit, je dirais, son affaire littéraire, en se posant en fait en tête de file de l'avant-garde. Et dans le Bonheur des Dames, il y a un certain nombre en fait de figures d'intellectuels qui sont dégradées, qui sont chargées de tous les maux, de tous les vices. Il y a même un personnage qui s'appelle Marty, et son nom en fait fait allusion au personnage du martyr.
Alors, bon, l'affaire Dreyfus, c'est évidemment un moment important, mais vous donnez à voir dans ce livre, et c'est ce qui en fait toute la richesse, des situations extraordinairement différentes, des anti-intellectualismes de gauche. Vous avez cité tout à l'heure Proudhon. On va voir aussi l'anti-intellectualisme adressé à des autodidactes ou à des nouveaux bacheliers, parce que précisément, il peut y avoir une crainte de voir le nombre nombre des intellectuels augmenter dans le pays. Le groupe intellectuel comme groupe social peut devenir un groupe dangereux, comme peuvent l'être les classes laborieuses. La classe intellectuelle, d'une certaine façon, peut être perçue comme une classe dangereuse, et ça suscite des formes nouvelles d'anti-intellectualisme, Sarah Al-Matari.
Oui, il était très important pour moi de ne pas centrer le livre sur la critique de l'anti-intellectualisme d'État. Et finalement, de laisser croire que j'étais dans une sorte de réflexe corporatiste, parce que moi-même, je suis enseignante et chercheur, de défense de l'institution. Alors, je ne dis pas que je légitime l'anti-intellectualisme, mais c'était très important pour moi de tenir les deux bouts d'une chaîne où on a, de part et d'autre, la figure du parasite. Tout en haut, évidemment, c'est la figure de l'intellectuel d'État considéré comme un parasite parce qu'il est trop payé, parce qu'il palabre au lieu d'agir, parce qu'on considère qu'il ne travaille pas vraiment. Les anti-intellectuels, en tout cas, le considèrent. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a tous ces jeunes étudiants à un moment d'explosion démocratique, à un moment où il y a de plus en plus, en fait, de diplômés qui arrivent sur le marché du travail. Et évidemment,
même si ça reste très modeste à l'échelle de la société à l'époque.
Oui. Évidemment, c'est infinitésimal. Il n'empêche que c'est vraiment perçu comme un flot. Et ces métaphores du flot, qu'on retrouve aujourd'hui dans le discours sur les migrants, hein, ces métaphores du flot, de la cohue, sont à l'époque mobilisées pour désigner ce qu'on appelle l'excédent d'intellectuels, c'est-à-dire un écart entre le nombre de diplômés et le nombre de places, le nombre d'emplois. Et il s'avère que la plupart de ces diplômés vont trouver des places dans le journalisme, dans les métiers d'art, etc. Et on peut voir en fait comment ce qu'on appelait à l'époque la bohème et qui restait, on va dire, à l'époque romantique.
C'est déjà les bobos dont je parlais tout à l'heure.
C'est déjà les bobos. Alors c'était idéalisé au départ. Il y avait une sorte d'idéalisation chez les écrivains, mais petit à petit, cette idéalisation s'écorne et apparaît la figure du prolétaire intellectuel.
Voilà,
et
qu'on oppose à l'avocat, au médecin, à ces professions libérales qui sont aussi intellectuelles, mais qui sont structurées.
Elles sont structurées, elles sont limitées en nombre de places et elles rassurent, hein, ces figures de notabilité, alors que ce prolétariat des intellectuels, ce prolétariat intellectuel fait très peur, on a l'impression qu'il pullule et on le suspecte de tous les maux, et notamment de terrorisme. Et donc, il y a tout un imaginaire de la mansarde. Cet imaginaire, il peut être positif. On connaît ça à l'époque romantique avec le poète pauvre dans sa mansarde qui écrit des vers. Et ben, ça va devenir ces mansardes, en tout cas dans l'imaginaire, des lieux où on imagine qu'on fabrique des bombes. Et il y a tout un chapitre dans le livre, en fait, sur les attentats anarchistes des années 1890.
La bande à Bono,
la bande à Bono, c'est un petit peu plus tard, mais c'est très important. Alors, la bande à Bono, c'est les anarchistes de la reprise individuelle. Et là aussi, ça résonne, il me semble, un petit peu avec ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire ceux qui considèrent qu'ils peuvent faire des casses, ils peuvent reprendre la richesse, par exemple, que les banques leur ont accaparée, parce que finalement, cette richesse, elle est mal répartie et que, d'une certaine manière, ce n'est que justice que de rééquilibrer le grand jeu des forces.
Mais là, ce qui frappe, c'est à ce moment-là, finalement, la mise en équivalence des livres et des bombes. L'anti-intellectualisme prend cette forme-là. On aura l'occasion aussi d'en parler avec Lionel Ruffel tout à l'heure à propos du groupe de Tarnac, parce que ça résonne, je trouve, d'une manière assez étonnante. Mais il y a l'inquiétude dans certains milieux sociaux à l'égard des intellectuels, parce que ce seraient donc ces gens dangereux, dans la mesure où il y aurait un lien entre le fait de lire des livres et de manifester une certaine violence politique nouvelle.
On a très peur, au moins depuis le XVIIe siècle, de ce qu'on appelle les mauvais livres. Au départ, cette angoisse, elle est dirigée vers un certain public considéré comme plus fragile, les femmes et les enfants. Donc il y a un certain type de lecture qu'on interdit aux femmes et aux enfants et au peuple, parce que le peuple est lui-même féminisé et infantilisé. Mais à partir du XIXe siècle, ça prend des proportions bien supérieures, puisqu'on va accuser toute cette nouvelle génération de diplômés, de gens qui font des études ou qui s'instruisent de manière autodidacte, on va les accuser de ne pas être capables de bien digérer leur lecture. Et donc d'avoir le cerveau farci, mais mal farci, ce qui les amènerait à faire des contresens et ce qui les mènerait en quelque sorte au pire, c'est-à-dire aux actes terroristes. Et là, la France se trouve face à un paradoxe, parce que justement, le projet révolutionnaire, c'était celui d'une instruction pour tous, avec l'idée que chaque citoyen français devait lire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et s'en pénétrer. Et on a des gens qui nous disent « Ah non, non, ça fonctionne pas. Il faut que le savoir soit limité à un petit groupe de la population qui est vraiment capable de comprendre ce qu'il lit. Et lorsque le peuple lit, il devient dangereux. »
Ah, cette tension entre massification scolaire et anti-intellectualisme, elle est récurrente. On parlera peut-être de la situation plus contemporaine tout à l'heure. Mais donc votre livre est structuré autour de ces moments historiques. Pour prendre un autre exemple qui me paraît très très important, c'est celui de la naissance du communisme en France, qui suit le congrès de Tours, donc cette scission de la SFIO, et toute la question de la formation des intellectuels communistes, le débat à l'intérieur de la gauche sur la place des intellectuels dans la gauche. Au fond, est-ce que ces intellectuels doivent avoir une place organique? Comment on peut les former? Est-ce qu'il faut des écoles pour ça? Ou est-ce qu'il faut se méfier des intellectuels dans le mouvement social? C'est une question qui va traverser à partir de, enfin déjà au 19e siècle, mais qui va prendre un tour nouveau à la faveur de cette conjoncture historique, Sarah El-Matari.
Oui, quand on parle d'anti-intellectualisme, on a tout de suite tendance à penser à l'ouvriérisme et à ce qu'on a appelé la bolchevisation du parti, c'est-à-dire un moment qui est très, finalement très dur de purification ou d'épurement en fait de l'appareil politique. En réalité, ce moment est très bref puisqu'il se situe autour de 1924 et 1928 et que à partir de 1928, la lutte contre le fascisme et notamment contre les nazis qui apparaissent comme de grands brûleurs de livres parce qu'il y a des grands bûchers à Berlin fait qu'un certain nombre de communistes vont basculer au contraire dans une forme non pas d'intellectualisme en fait mais de soutien aux intellectuels. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que malgré ces débats qui innervent le Parti communiste français après sa création, il y a en fait une politique de la main tendue qui ne s'est jamais démentie et que même au sein du Parti communiste et de toute façon de tous les partis de gauche, avant le Parti communiste évidemment, c'est au sein des mouvements socialistes et puis à partir de 1905 du Parti socialiste unifié, il y a des débats sur la place que doivent tenir les intellectuels au sein du parti. Alors, je ne peux pas revenir sur le détail de ces débats parce qu'ils sont complexes, mais ce qui est drôle, c'est que il y a toujours une hiérarchie qui s'opère de toute façon entre ceux qui prennent la parole et ceux qui ne la prennent pas, par exemple.
Alors, on peut pas rendre toute la richesse de ce livre. Il y a d'autres situations. Il y a les liens entre l'antisémitisme et l'anti-intellectualisme, qui est aussi une chose très très intéressante à comprendre, à analyser. Il y a d'autres moments comme le moment poujadiste, par exemple, sur lequel vous vous arrêtez et qui va durablement, même si cette période ne dure pas, durablement marquer les esprits. Le poujadisme continue d'être aujourd'hui une catégorie d'analyse et une des manifestations possibles de l'anti-intellectualisme, cette fois plutôt formulée par un univers de petits commerçants artisans, donc à l'image de Pierre Poujade qui lance ce mouvement dans les années 1956. Sarah El-Matari.
Alors, un mot peut-être quand même sur l'antisémitisme, parce que tous les anti-intellectualistes ne sont pas antisémites, mais force est de constater que beaucoup d'anti-intellectualistes
ça va souvent de pair.
Le sont. Alors, il faut quand même en rappeler un qui ne l'est pas, c'est Charles Péguy, que j'aime beaucoup, qui est quand même un des premiers à s'engager aux côtés de Bernard Lazare pour la défense du capitaine Dreyfus. Cela étant dit, il y a notamment à partir de la tradition proudhonienne toute une série d'anti-intellectualistes qui vont dénoncer la figure du juif, ce qu'ils appellent le juif talmudique, le juif analyste, qui jonglerait selon eux avec les idées comme ils jonglent avec les deniers. Et donc je travaille sur ces stéréotypes de manière assez longue, au moins jusqu'à Céline et la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai essayé de relire l'œuvre de Céline en montrant que finalement, c'est une œuvre qu'on a tendance à analyser au prisme de l'antisémitisme, mais qu'on pourrait tout aussi bien l'analyser au prisme de l'anti-intellectualisme. Et peut-être que les conclusions seraient quasiment les mêmes.
Ou en tous les cas, tenir les deux bouts.
En tout cas, tenir les deux bouts ensemble. Et alors, sur le poujadisme, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, parce que le mouvement des Gilets jaunes a parfois été analysé comme une sorte de résurgence du poujadisme, il y a évidemment un certain nombre de points communs, mais comme je l'ai dit lors d'une autre émission, il me semble qu'il y a une différence fondamentale entre les deux, et cette différence, elle est en fait dans le refus de l'incarnation chez les Gilets jaunes. Il n'y a pas de recherche, en tout cas pour le moment, d'un chef charismatique, d'une figure en fait verticale qui serait censé représenter le mouvement.
Et qui avait émergé à l'époque très rapidement avec ce petit papetier de Saint-Céré qui était Pierre Poujade.
L'incarnation est très importante dans le mouvement poujadiste et ça vire presque à un certain moment au culte de la personnalité, notamment quand le mouvement qui est devenu un mouvement politique est en reflux. Et on a, je développe dans le livre, une intéressante opposition en fait entre Poujade et De Gaulle. Chez les partisans de Poujade, De Gaulle apparaissant parce qu'il aime la littérature, parce qu'il a écrit ses mémoires qui paraissent à peu près au même moment, comme l'intellectuel qui tourne en rond, qui n'agit pas vraiment, alors que, nous dit-on, Poujade, lui, sait parler au peuple, il est à l'aise dans tous les milieux, etc. Un petit mot quand même sur Poujade, c'est pas anodin qu'il soit papetier. Un papetier, c'était aussi une sorte de libraire à l'époque. Donc il a quand même un rapport au livre, et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il n'est pas complètement anti-intellectuel. Enfin, aucun des acteurs que je mobilise n'est complètement anti-intellectualiste. Ils ont tous un rapport au savoir et à la culture. Et finalement, voilà, cet anti-intellectualisme, c'est aussi une forme de culture alternative qui fait appel à des figures, à des références qui sont celles de la culture lettrée.
Alors cette culture lettrée, certains même sont au cœur même, je pense à l'école normale supérieure et je pense au très beau chapitre que vous consacrez au mouvement maoïste de la fin des années 60, des gens qu'on d'ailleurs partage une maison d'édition avec Lionel Ruffel, Verdier, je pense à la figure de Bene Lévy que vous convoquez, mais aussi à tous ceux donc autour de lui dans cette organisation maoïste qui ont décidé de s'établir, Robert Linhart et beaucoup d'autres, dans une forme d'anti-intellectualisme spécifique là encore, mais toujours très intellectuel.
Oui, j'ai une tendresse particulière pour ces Mao, en tout cas dans leur version française, parce que le chapitre où ils sont intégrés évoque aussi le cas chinois avec des pratiques de cannibalisme réel. On a mangé en Chine des intellectuels et des étudiants. Et bon, il y a une anecdote qui est assez savoureuse, si j'ose dire, c'est qu'un slogan qui a beaucoup circulé en mai 68, « Mangez vos professeurs », une sorte d'appel à l'insurrection poétique, a vraiment été appliqué en Chine où on a vraiment mangé des professeurs. Au pied de la lettre. Bon, les Mao français ont été, si j'ose dire, plus sages. Ils ont non pas décidé d'aller au peuple, mais décidé de trouver des nouvelles formes de militantisme en s'installant soit au champ, soit en usine, et en essayant de développer en fait un autre type de relation, peut-être plus horizontale, avec les travailleurs ouvriers pour essayer d'engager une sorte de convergence des luttes. Voilà, alors certains disent que ça s'est pas très bien fini, mais enfin c'est quand même une expérience qui est fondamentale et qui va se poursuivre après mai 68 et après la fin de l'établissement.
Vous terminez votre enquête historique, Sarah Al-Matari, par Nicolas Sarkozy, dont vous parliez tout à l'heure, cet anti-intellectualisme d'État, au fond, qui naît au début du XXIe siècle, et aussi par une séquence qui la précède, juste, dont je ne pouvais pas ne pas parler, même si je suis un peu partie prenante de cette histoire, puisque vous arrêtez pendant un moment sur une pétition, un appel contre la guerre à l'intelligence qu'à quelques-uns nous avions lancé en 2004 et qui visait à montrer que des politiques publiques menées par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin à l'époque, qui visaient l'université, les intermittents du spectacle, les chercheurs, les magistrats, les architectes, au fond des intellectuels, tout ça était très cohérent et pouvait être qualifié d'anti-intellectualiste en tant que politique menée par un gouvernement.
Ce moment était important pour moi parce que justement je défends dans ce livre une définition très large de l'intellectuel. Et cette pétition montre que finalement ce qui est en crise à ce moment-là, ce n'est pas l'intellectualité dans son sens le plus restreint, mais c'est le lien social.
Et que donc, d'ailleurs, intelligence, ça veut dire relier aussi.
Voilà. Et donc, tout le monde peut se sentir concerné. Et finalement, c'était la casse du service public qui était dénoncée par cette pétition. Et elle a agrégé un certain nombre de mouvements de protestation qui excédaient de loin ce qu'on pourrait appeler le mouvement intellectuel, avec des aides-soignantes, avec des avocats, etc.
Mais alors, J'ai commencé cette émission par un étonnement, parce que je suis toujours étonné, ça fait longtemps que je l'entends, mais c'est le fait qu'on utilise le mot intello comme une insulte dans une cour de récréation. Je pense que ce fait social est probablement, on peut en faire l'hypothèse, rendu possible par le fait que l'anti-intellectualisme soit désormais potentiellement porté par un président de la République, Nicolas Sarkozy, par un gouvernement, par des politiques publiques.
Ça me parle beaucoup parce que vous savez, moi, durant toute ma scolarité primaire, j'ai été taxée d'intello. Peut-être qu'il y a des racines autobiographiques à ce livre, je sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on trouve très peu de choses sur ce phénomène. Faudrait mettre un sociologue sur le coup. Il y a très peu de choses sur l'anti-intellectualisme.
Oui, vous ne citez que Natacha Polony à ce
sujet. Un billet,
sujet.
Bah oui, parce qu'elle a eu au moins le mérite de faire ce billet, en fait, sur l'anti-intellectualisme de cours d'école, qui est une réalité. Et moi aussi, je me suis demandé, en fait, comment même dans les mots, comment cette insulte, en fait, qui, je pense, est très ancienne, des générations, en fait, d'écoliers l'ont subie, comment ça se perpétuait, ça. Et moi, mon seul regret, vraiment, pour ce livre, c'est de ne pas avoir pu faire une enquête par le bas sur l'anti-intellectualisme populaire aussi et sur la télé. Parce que j'avais commencé à travailler un petit peu sur Touche pas à mon poste, c'est l'émission d'Hanouna, où à un moment, il y avait un plateau très composite où un des chroniqueurs était censé tenir le rôle de l'intellectuel et régulièrement l'animateur lui lançait une insulte, sale intello, ce qui faisait bien rire tout le monde en plateau. Et je trouvais que c'était intéressant comme type d'interaction et ça aurait peut-être eu sa place dans le livre.
On poursuit cette discussion, cette conversation, et on l'élargit sous forme de dialogue avec Lionel Ruffel dans la deuxième partie sur la situation contemporaine de l'anti-intellectualisme. C'est après un extrait du nouvel et troisième album de Jessica Pratt, Polyblue. Du Salon du Livre où l'on parle aujourd'hui de l'anti-intellectualisme en France, son histoire mais aussi son présent. On en parle avec Sarah Al-Matari qui publie aux éditions du Seuil La haine des clercs, mais on en parle aussi désormais avec Lionel Ruffel, auteur de Trompe la mort aux éditions Verdier. Bonjour Lionel Ruffel, vous êtes professeur de littérature à l'université Paris 8 à Saint-Denis, où notamment vous avez co-créé, vous co-animé un master de création littéraire, je le précise parce que c'est assez rare encore dans l'université française. Et dans ce livre, Trompe la mort, vous témoignez d'une situation de l'université, mais vous ne faites pas que témoigner de cette situation, vous faites aussi le récit d'expériences que vous avez menées avec des groupes d'étudiants dans cette situation pour continuer de tromper la mort en imaginant avec eux des fictions, des histoires, pour au fond résister à cet anti-intellectualisme systémique désormais dans lequel un professeur d'université, même à Saint-Denis, doit évoluer, Lionel Ruffel.
Oui, bonjour. La question que je me pose en vous écoutant et en lisant le livre de Sarah Al-Matari et en discutant avec elle, c'est est-ce qu'il s'agit véritablement d'anti-intellectualisme ? C'est-à-dire la situation de l'université, on revenait sur ce moment très fort que j'ai vécu comme Sarah Al-Matari de 2007, de l'élection de Nicolas Sarkozy, et dont une des actions politiques les plus importantes a été l'écrasement de l'université. Lorsqu'il dit ceci sur la princesse de Clèves, effectivement, c'est une affirmation très forte d'anti-intellectualisme. Et nous avons beaucoup répondu comme des petits intellectuels inoffensifs, il faut bien le dire. On a fait des rondes, on a lu la princesse de Clèves, mais en fait, on était totalement écrasés. Et cette situation-là, au fond, 10 ans après, puisque c'est le moment où moi je suis recruté à l'université Paris 8, ce même mois de 2007. Donc il y a une correspondance. Cette situation-là, où nous continuions à nous obstiner à réagir en tant qu'intellectuels, je dirais, tout d'un coup m'est apparu 10 ans plus tard comme une situation de mort. Nous étions déjà morts. Elle témoignait de notre mort et nous ne faisions que survivre dans cet univers. Et là, il ne s'agit pas tant d'anti-intellectualisme, c'est la destruction du service public. C'est une politique, alors je ne vais pas dire totalement néolibérale, parce que le néolibéralisme est encore beaucoup plus violent dans d'autres pays, mais une politique de libéralisation qui a déjà détruit le cadre dans lequel j'exerce, que j'ai souhaité rejoindre et qui me fait encore rêver. Et donc, les stratégies qui sont adoptées sont, à mon avis, des stratégies qui sortent peut-être de la généalogie de l'intellectualisme, de l'anti-intellectualisme, notamment parce que je me suis beaucoup retrouvé, je ne veux pas parler trop longuement à la première question, mais je me suis beaucoup retrouvé justement dans ce très beau chapitre, je suis d'accord avec vous, sur Béni Lévy, les Mao, et sur les constats qui sont faits dans ces années 70, où ils proposent de sortir de l'académisme sans sortir de la transmission. Je crois que la transmission, ça peut être le cas de pratique, de construction, d'agir. Et je crois que mon livre essaie plutôt de parler de cela, c'est-à-dire ces espèces de construction.
Sarah El-Matari, c'est vrai que Lionel Ruffel, dans son livre, raconte comment, pour des raisons matérielles, au fond, il s'exile, si j'ose dire, avec un groupe d'étudiants dans un espace qui, depuis, a fermé, en plus, Kiasma, qui accueille un morceau de service public qu'est l'université pour rendre possible, pour continuer le travail. Et donc là, on a une tentative qui n'est pas sans lien effectivement avec ce moment Mao que vous analysiez, c'est-à-dire non pas lâcher le travail intellectuel, mais lâcher certaines des structures dans lesquelles il a l'habitude de s'épanouir.
Mais je pense qu'on a le même point de départ politique, Lionel Ruffel et moi. C'est effectivement ce constat d'une case de l'université qui est entamée en fait au moins depuis le 2007, dont on paie les conséquences aujourd'hui parce qu'on a lutté avec nos outils et qu'on aurait dû aller plus loin. C'est désormais certain. Et je suis évidemment admirative en fait du travail que fait Lionel Ruffel, sa recherche qu'il appelle une recherche de subterfuges. Nous, les anciens chercheurs, on est obligés au quotidien de trouver des subterfuges, y compris des subterfuges matériels pour essuyer notre tableau, etc. Bref, je passe sur les détails, mais finalement, je trouve aussi qu'on fait de très très belles choses avec très peu de moyens. Pour en revenir au Mao, on pourrait même remonter un petit peu plus haut dans l'histoire, puisque cette question en fait de comment s'instruire, comment s'élever hors de l'académie, pris au sens anglo-saxon, en fait, elle est essentielle depuis Proudhon. C'est la recherche d'une éducation intégrale qui prendrait en compte les savoir-faire manuels, l'expérimentation, la nature aussi, toutes choses qui aujourd'hui sont très à la mode, par exemple avec les écoles Montessori, etc.
Alors, le savoir manuel, la dimension matérielle du livre, c'est pas hasard, vous échouez dans un lieu, Kiasma, qui est une ancienne imprimerie, Lionel Ruffel.
Oui, alors bon...
Vous parlez du petit papetier tout à l'heure.
Oui, mais... oui, absolument, j'ai beaucoup apprécié cette remarque aussi. Il se trouve que ce texte n'est pas véritablement un essai, c'est plus un récit.
Et puis, c'est un texte littéraire.
Voilà, oui. C'est un texte littéraire qui fait correspondre et fait résonner des choses ensemble. Il se trouve que le lieu où on va travailler, c'est une imprimerie qui a été transformée en centre d'art, qui aujourd'hui a fermé, mais va reprendre sous d'autres moyens, et qu'on y crée une sorte d'université déplacée en exil, vous avez dit le terme, je crois que c'est exactement ce que nous avons senti, et dire aussi qu'on a été en exil pour plein de raisons, mais aussi parce que l'année dernière, mon université a accueilli des réfugiés, elle a accueilli les contestations étudiantes, et qu'à un moment, elle a fermé, véritablement fermé, pour quelques jours. Donc cette fermeture, je l'ai vécue comme un choc, et ce livre est écrit dans ce choc-là. Voilà.
Autre résonance que je soulignais tout à l'heure dans la première partie en posant une question à Sarah El-Matari, celle qui vous a fait vous intéresser avec ces étudiants, entre autres, à la dangerosité de certains livres et à cette rocambolesque histoire et en même temps grave histoire de Tarnac, Lionel Ruffel, sur laquelle vous revenez dans Trompe-la-Main.
Oui, il se trouve que dans le master de création littéraire dont vous parlez, ce lieu qui est un lieu un peu utopique, hein, je dois dire qu'il y a un peu une... ce que ma collègue et amie Marielle Massé appellerait une cabane. On essaie de réfléchir à ce qu'est un livre. Ce sont des étudiants qui aspirent à écrire des livres. Et donc, moi, je mène une réflexion un peu théorique depuis des années, historique, sur ce qu'est un livre. Et j'étais tombé, ça faisait plusieurs années que l'affaire de Tarnac m'intéressait pour des questions aussi générationnelles, hein, j'imagine. Et parce que ce livre du Comité Invisible m'avait beaucoup marqué quand je l'avais découvert en 2007. Mais surtout, je suis tombé sur un petit clip d'un commentateur ultra-conservateur. C'est l'anti-intellectualisme dans toute sa violence, là, pour le coup.
Américain.
Américain, qui s'appelle Glenn Beck, qui sur Fox News, qui est vraiment un des lieux mondiaux de l'anti-intellectualisme, pour le dire, dit « This is a dangerous book ». C'est un livre dangereux. En parlant de ce livre du Comité Invisible, et c'est la première fois peut-être qu'il parlait d'un livre français, hein, par ailleurs. Et donc, je me suis intéressé à ce que, qu'est-ce que ça veut dire un livre dangereux? Et à aussi parce que j'ai toujours une approche un petit peu d'archéologie des médias qui sous-tend ça, considère le livre. Aujourd'hui, je considère le livre plutôt comme une capture de données et une capture qui peut muter, qui peut se transférer ailleurs. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler. Il faut dire que le livre Trompe la mort, c'est trois histoires. L'histoire centrale, c'est une sorte d'histoire du livre. Voilà.
Alors, oui, c'est une, bon, qui revient à beaucoup de moments historiques différents. Dans ce que vient de dire Lionel Ruffel, il y a une chose, je pense, importante dont on n'a pas parlé du tout, Sarah Al-Matari, c'est le rôle des médias. Il parlait de Fox News. Au fond, je me disais, si un télo est devenu une insulte dans les cours de récréation, c'est aussi peut-être parce qu'on est passé à un stade médiatique de l'anti-intellectualisme.
Oui, alors c'est le dernier chapitre de mon livre qui s'appelle « L'anti-intellectualisme sur un plateau » qui s'intéresse justement à ce phénomène assez curieux en fait de disparition des intellectuels des plateaux, à l'exception de quelques intellectuels médiatiques. Alors on pourrait discuter de l'étiquette d'intellectuel appliqué à certains d'entre eux, c'est un autre débat. Mais et alors relative disparition et en même temps l'étiquette est devenue une étiquette très courante dans la presse, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir de l'anti-intellectualisme partout. On a tendance à en voir chez les stars du rap, chez les représentants politiques, etc. Donc il y a une sorte de diffusion et en même temps d'amoindrissement de l'anti-intellectualisme que j'ai essayé en fait d'expliciter.
C'est-à-dire qu'il y a un anti-intellectualisme décomplexé, comme on mise a vu des droites décomplexées, des gauches décomplexées. Enfin,
en tout cas, il est mis en scène, il est banalisé. C'est plutôt le mot de banalisation que je retiendrai, je pense.
Vous partagez cette impression, Lionel Ruffel?
Oui, et effectivement, je discuterai volontiers la nature d'intellectuel et la nature du débat intellectuel dans ces arènes-là. Je dois dire qu'elle m'intéresse assez peu. Donc, je le partage, mais elle m'intéresse assez peu. Oui.
Alors, dans Trompe la mort, vous revenez, peut-être, on pourrait terminer par là, au Salon du Livre, sur des fictions, sur des histoires, parce qu'au fond, c'est peut-être ça la ressource dont on dispose, celle qu'on a à opposer à toutes ces manifestations d'anti-intellectualisme, ces
oui,
expériences de la fiction.
De toute façon, Trompe la mort est un livre sur la narration et la fiction. D'un point de vue un peu anthropologique, hein, je parle des Mille et Nuits, je parle du Décaméron, je parle d'histoires très anciennes, je parle même...
Vous parlez de Scheherazade.
De Scheherazade, et même pratiquement de périodes dites préhistoriques, hein, sur la condition narrative de l'humanité. Je pense que notre moment, c'est un moment où il faut être très conscient de cette condition narrative et de savoir qu'il y a des narrations du pouvoir qui sont des narrations destructrices. Et ce dont je parle dans ce livre, ce sont des barricades narratives, ce que j'ai fini par appeler des barricades narratives. Des groupes qui, ensemble, forment des barricades narratives à des narrations de pouvoir qui sont, elles, très destructrices. Ce dont vous parliez tout à l'heure, les médias de masse, produisent des histoires. Des histoires totalement folles.
Ça, c'est le storytelling.
Voilà, c'est du storytelling. Puis même, ça devient des imaginaires qui deviennent des imaginaires dominants. On peut le voir dans l'actualité tous les jours. Hein. Et auxquels il faut savoir aussi répondre, parfois en s'y opposant, clairement. Je crois qu'un des premiers éléments, c'est en s'y opposant, je veux dire, en fermant les écoutilles, en ne les écoutant plus pour reconstruire un monde. Et c'est pour ça que je parle notamment de ce livre du Décaméron du 14e siècle qui constitue exactement un archétype pour penser cela.
Merci beaucoup, Lionel Ruffel. Je rappelle le titre de votre livre, Trompe la mort. Il est publié aux éditions Verdier. Et merci à vous également, Sarah Al-Matari. Je rappelle que vous venez de publier La haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France, un livre qui paraît aux éditions du Seuil. Vous retrouvez les références bibliographiques de ces deux ouvrages sur la page de La suite dans les idées, sur le site de France Culture, une page où vous pouvez réécouter cette émission, une page également où vous pouvez vous abonner. Et je vous y encourage au podcast. C'était donc une suite dans les idées en direct du Salon du Livre de Paris à la Porte de Versailles. Sylvain Bourmeau avec comme attaché de production Chouchan Djergaïan, à la réalisation aujourd'hui Peyret Legras, à la technique Élise Le, Sébastien Huel et Emmanuel Morse d'Incan, et comme chargé de production Rémi Bourriou. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez tout de suite sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.